Rio 2016, les Jeux continuent. Voici Alexandre Coupal.
Édition du 10 septembre. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Je vends le punch, mais pas beaucoup. Le Canada est inscrit au tableau des médailles au moment où on se parle. Philippe Asselin aura tous les détails dans quelques minutes, mais c'est plus qu'une. Moins que 10, mais plus qu'une médaille. le chiffre précis dans quelques minutes. Le temps de vous indiquer un peu à quoi ressemblera, de quoi seront faites les 20, presque 28 prochaines minutes. D'abord, lorsqu'on aura fait le tour de tous les résultats, et ça, ça va nous occuper, n'empêche, un certain temps, je vous parlerai un petit peu du lien que l'on a fait entre la politique et le sport paralympique, que l'on a fait, que l'on a observé, je dirais. Il y a comme trois femmes importantes pour le mouvement paralympique et importantes aussi en politique qui sont d'actualité dans ces Jeux. Je vous les présenterai. Sinon, ensuite, avec Julie Guéot, on va parler volleyball assis, le tournoi qui est en cours et qui verra le Canada, d'ailleurs, débuter son épopée chez les femmes seulement demain. Donc, comme on le fait à tous les jours, là, on aime inviter un spécialiste pour tenter d'analyser et de comprendre un peu plus ce à quoi on aura droit. Alors, avec Julie Guéot, qui est du club Everton, on va faire ça. Sinon, on termine, comme on le fait à l'habitude, avec un saut, un petit saut via une technologie que vous connaissez peut-être, ça s'appelle le téléphone. C'est un petit saut que l'on fait avec un collaborateur sur place. Cette fois, aujourd'hui, c'est Émilie Bouchard-Labonté de l'agence Sportcom qui est de retour. L'agence Sportcom qui non seulement est un allié fidèle pour cette émission, mais pour le sport amateur en général. Non, pour le sport amateur, point. C'est une agence qui est dédiée à la communication pour les sports, autant chez pour les handicapés que pour les valides. Émilie Bouchard-Labonté est notre collaboratrice. Elle nous accompagne presque à tous les deux jours dans cette série qui est lancée, donc, cette édition du 10 septembre. Tous les détails sportifs sont là. Alors, Philippe Asselin, un gars occupé, un gars qui a été occupé toute la journée et qui va l'être là au cours des prochaines minutes, parce que des médailles, en veux-tu, en v'là.
Et oui, 7 médailles pour le Canada. En rappelons que hier, il y en avait 0. C'est vrai.
C'est un gain de 7.
Voilà, un gain de 7. On a eu 5 médailles hier et 2 aujourd'hui. On va commencer avec celle d'hier, si tu veux bien, ouais. Alexandre. D'abord, en athlétisme, au 100 mètres masculin, catégorie T53, Brett Lacadosse du Québec a gagné une médaille d'or. Donc, lui qui s'était qualifié pour la finale avec le meilleur temps, même un record pour lui. C'est donc, une médaille d'or. Ensuite, on a eu une médaille d'argent en javelot masculin F44, Alistair McQueen, qui a gagné donc la médaille d'argent avec un lancer de 55,56 mètres. Maintenant, on passe au cyclisme. On avait 3 Canadiens en finale du 3000 mètres, pardon, C1, C2 et C3. Eh bien, on a gagné l'argent en C2 et en C1, Russ Wilson et Tristan Chernovy, donc respectivement, qui ont gagné donc des médailles d'argent, perdant en finale, mais quand même une médaille d'argent.
Deuxième place.
Oui, pour Michael Samedz de Calgary, lui, malheureusement, a échoué dans sa tentative de remporter la médaille de bronze, lui qui était en petite finale du 3000 mètres C3. Et la première médaille d'or, eh bien, elle a été gagnée par la vedette de la natation, la jeune vedette de la natation, Aurélie Rivard, qui a gagné, en plus d'établir un record du monde, rappelons-le, à 27 secondes point.
Donc, elle a battu son temps de la qualification?
Oui, en fait, non, je pense qu'elle a établi ce record-là en qualification. Elle a quand même remporté la médaille d'or. Okay. Oui, voilà. Qui tient toujours. Elle qui a gagné en catégorie de 50 mètres libres dans sa catégorie des S10. Sinon, on continue. Sinon, ça a été un petit peu plus difficile pour le reste des...
Pour les sports d'équipe, ouais. C'est ça, ça a été... Là, évidemment, c'est les résultats heureux. Pour les sports d'équipe qui se poursuivent, cela dit, c'est pas les départs escomptés.
Et non, par exemple, en goalball, le Canada qui a perdu son match 11-3 face au Brésil. En volleyball, la on a perdu aussi 3-0, 3-0 contre le Brésil. Hier, en tennis de table, ça a bien été quand même en tennis de table pour Stéphanie Chan, qui, rappelons-le, avait perdu son premier match de la préliminaire et elle a battu cette fois-ci la Française Anne Barnemouth en 3 manches. Quand même une victoire expéditive pour la Canadienne. En basketball, en fauteuil roulant, on en a parlé hier, les Canadiens qui ont perdu face aux Pays-Bas, leur deuxième match, 49-32.
Non, et j'étais confus, et c'était comme une confusion prémonitoire. Je pensais qu'ils avaient perdu leurs deux premiers matchs. C'était pas encore le cas, mais là, ça l'est.
Et en tennis en fauteuil roulant, eh bien Philippe Bédard de Bromont a perdu son match de premier tour 6-0, 6-1 face à l'Anglais David Phillipson. Et sinon, on regarde du côté de ce matin, deux autres médailles.
C'est ça, parce que si on fait le compte, tu nous as donné les détails sur 5, il en manque 2.
On revient à aujourd'hui, 2 médailles ce matin. D'abord, l'or pour Michelle Stilwell en athlétisme, 400 mètres T52. Très belle performance de la Canadienne. Et une médaille d'argent pour Stéphane Daniels en triathlon. On recevait hier quelqu'un qui nous parlait de triathlon.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'on l'a prédit? Non.
On en avait parlé, mais on espérait une médaille d'or. C'est ça. Il a fini vraiment proche quand même de la médaille d'or. Lui qui a fini avec un temps de 1h03.5. C'est 28 secondes seulement derrière le champion de cette épreuve-là. Et sinon, ce matin, en basketball féminin, les femmes l'ont emporté 73-28 face à l'Argentine. Un massacre.
Et elles sont invaincues. Pour les Canadiennes, là, elles n'ont pas de défaite encore.
Fiche de 2-0. Sinon, en boccia, on a perdu nos 2 matchs en BC4, 4-3 face au Brésil et en BC3, 10-1 contre la Corée du Sud. Rappelons, précisons aussi que Benoît Huot et Aurélie Rivard se sont qualifiés pour la finale de 100 mètres brasse, chacun en C10 dans leur sexe respectif.
Et ils vont nager ce soir, c'est ça?
Oui,
En finale. De toute façon, en fin d'émission, comme on le fait toujours, hein, c'est une tradition ici. C'est quoi, notre 4e, 5e émission? C'est une tradition. Tu nous offriras les événements à surveiller, bien sûr, pour la soirée et pour la journée de demain. Merci, Philippe.
Avec plaisir.
Ici Chantal Petitclerc. Vous écoutez l'émission Rio 2016, les Jeux continuent, sur les ondes du Canal M, la radio de Vues et Voix.
Alors, il y a... tout est dans tout, on dit. Hein. Vous allez voir, il y a un clin d'œil qui va opérer dans les prochaines minutes. Et il y en a un que j'opère tout de suite parce que Philippe mentionnait la médaille d'or et le record olympique de Michelle Stilwell en T52, 100 mètres, 400 mètres, pardon, aujourd'hui. Et Michelle Stilwell est l'une d'un trio de femmes à avoir participé ou à participer dans son cas aux Jeux paralympiques et être également impliquée en politique. Dans le cas de Stilwell, c'est en politique provinciale. Elle est ministre dans le gouvernement de la Colombie-Britannique, ministre du développement et de l'innovation sociale. Ce sont, vous allez voir, des femmes qui ont des parcours qui se recoupent un peu. Pour Stilwell, c'est une 4e participation à des Jeux paralympiques. Elle vise 2 médailles d'or. Il y en a une qui s'est réglée. Elle visait 2 médailles d'or. Il y en a une qui s'est réglée, celle aux 400 mètres. Elle participera également aux 100 mètres. Et c'est la récolte qu'elle avait mise en banque à Pékin. Mais c'est un palmarès qui est éloquent. Déjà, elle a 4 médailles d'or et 1 d'argent entre Sydney en 2000 et Londres en 2012. Elle a décroché sa première médaille d'or avec l'équipe canadienne de basket en fauteuil roulant. Donc, multi-sport en plus d'être dominante, comme vous le réalisez. Et après le basket, elle a décidé de tenter un peu d'athlétisme où elle connaît beaucoup de succès, comme on en est tout à fait... j'allais dire conscient, mais témoin, voilà. Et pour ce qui est de sa carrière politique, c'est-à-dire à l'âge de 42 ans, ça c'est son âge actuel, elle sera présente, elle est aux Jeux paralympiques. Et comme je le disais, donc pour ce qui est de sa carrière politique, elle a été élue au Parlement de la Colombie-Britannique dans lequel elle a été nommée ministre. dans un parcours ou enfin dans ce qui se ressemble en termes de pedigree, la ministre actuelle dans le gouvernement fédéral, donc dans le gouvernement de Justin Trudeau, Carla Carl True, elle est ministre des sports et des personnes handicapées. D'ailleurs, entre nous, il y a un travail qui se fait pour qu'on puisse lui parler dans le cadre de notre série. C'est comme si elle était ministre de notre émission dans un certain sens. Elle aussi, donc, c'est une carrière brillante en sport et parallèlement en droit et en politique. Elle a participé aux Paralympiques de 88 et de 1992, toujours en athlétisme dans les épreuves de 4 fois 100 mètres, des médailles de bronze. En 88, une médaille de bronze et deux fois en 1992, le 4 fois 100 mètres relais 4 nages et le 4 fois 100 mètres relais style libre. J'ai dit athlétisme, là, mais il s'agit de natation, bien évidemment. En parallèle, une carrière en droit, je le disais, elle a entre autres travaillé au Tribunal des droits de l'homme de Colombie-Britannique et elle a été élue donc dans le dernier gouvernement libéral dans lequel on lui a confié les responsabilité de ministre des Sports et des Personnes handicapées. Ça nous en fait deux. L'autre, ben, c'est Chantal Petitclerc. Et c'est un peu une tricherie parce que Chantal Petitclerc incarne le mouvement paralympique au Québec, l'athlétisme en fauteuil roulant et également. C'est une des plus grandes championnes de l'histoire du sport et, comme vous le savez probablement, elle vient d'être nommée sénatrice. Alors, on l'inclut dans notre trio. En mars dernier, elle a été élue sénatrice de Granville, mais vous avouerez que c'est pas banal, trois destins aussi semblables, trois femmes, trois carrières paralympiques de haut niveau et trois carrières politiques en parallèle. On poursuit notre tournée des sports qui seront et qui sont, dans le cas du volleyball assis, déjà en action, histoire de tenter d'analyser et de voir venir un peu. Et pour ce segment aujourd'hui sur le volleyball assis, on s'entretient avec la responsable de cette discipline au club Everton, j'ai nommé Julie Guéot, qui est sur place à Rio, si j'ai bien compris. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors, je le disais, c'est un segment que l'on fait régulièrement à l'émission ici. On tente d'abord d'établir un peu ce que c'est que la discipline. Dans le cas qui nous intéresse, c'est littéralement du volleyball assis.
Voilà, tout à fait. C'est du volleyball, donc avec les mêmes règles que le volleyball. La grande différence, c'est que les joueurs sont assis sur le sol et se déplacent assis au sol.
Le filet, bien sûr, est plus bas, à peine un peu plus d'un mètre au-dessus du sol. Et le court est un peu plus petit également. Et sinon, pour le reste, là, c'est pas mal la même chose. C'est bien ça?
Voilà, c'est ça.
Le Canada participe donc dans ce tournoi chez les femmes seulement. Le tournoi se met en branle demain contre les Pays-Bas. Où est-ce que le Canada se situe sur l'échiquier mondial?
Le Canada n'est pas une grande nation du volleyball et du volleyball assis, mais la qualification des filles ça a certainement changé un petit peu ça. Puis elles sont rentrées en compétition en fait hier contre le pays hôte, le Brésil.
Et est-ce qu'elles ont gagné? J'ai mal lu mon calendrier.
Et elles ont malheureusement perdu, mais le Brésil, c'est une grande nation du volleyball d'abord et puis ensuite du sport paralympique parce que je crois qu'ils sont quatrième ou cinquième au classement des médailles.
D'accord. Vous disiez que le Canada, c'est pas une grande puissance, donc cette qualification chez les femmes, c'est une avancée, si on peut dire?
Oui, c'est une avancée, c'est super prometteur pour la suite. Il y a plusieurs des filles qui jouent dans l'équipe qui n'avaient jamais joué au volleyball avant de rentrer dans cette équipe-là. Donc, c'est sûr qu'elles ont fait des progrès énormes en juste 2 ans et elles se sont qualifiées donc au dernier jeu parapanaméricain.
Qu'est-ce qui serait un objectif, j'allais dire non, réaliste, non, faisons mieux. Qu'est-ce qui serait un objectif optimiste?
Ben, je pense que si les femmes pouvaient se hisser en quart de finale du tournoi, ce serait absolument génial. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut qu'elles viennent à bout de plusieurs grandes nations. Donc, ça ne va pas être des plus évidents. Je n'ai pas les tableaux en tête, mais ça risque d'être compliqué.
On garde ça en tête, nous, par contre, parce que ça nous permettra de mesurer le chemin parcouru. Vous disiez, bon, le Brésil, c'est une des nations fortes. C'est qui sont les pays réellement, là, qui sont les pays à battre?
Chez les hommes, certainement le Brésil, les États-Unis, l'Iran ou la Chine. Et chez les femmes aussi, la Chine a une très bonne équipe. Et hier, il y avait un match entre l'Ukraine et les Pays-Bas. Et en jugé par le niveau du match, ce sont aussi deux grandes équipes.
D'accord. Et les Pays-Bas, ça, j'ai bien compris, c'est le prochain adversaire du Canada chez les femmes?
C'est possible. Alors là, j'ai pas...
Non, non, mais il n'y a pas de faute. C'est parce que je suis un peu, incertain là, de par ma bourde précédente. Mais donc, ça aussi, c'est une équipe costaude qui est qui se retrouve sur le chemin du Canada. En terminant, Julie Guéot, pouvez-vous nous dire, les hommes, je disais, il y a seulement que les femmes qui sont inscrites. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les équipes nationales masculines?
Ben, les hommes ne se sont pas qualifiés, en fait, pour l'équipe du Canada, les hommes ne se sont pas qualifiés pour cette édition-là des Jeux paralympiques.
Ouais.
Mais on espère que prochainement, ils vont pouvoir faire plusieurs matchs, notamment contre les États-Unis, qui va leur permettre de se préparer au mieux pour les prochaines qualifications.
Est-ce que l'équipe est loin de ce niveau?
Non, ils ne sont pas loin, mais ils se retrouvent, c'est vrai, en compétition avec d'autres grandes nations. Notamment les États-Unis, pour lesquels c'est le sport officiel des vétérans de l'armée. Donc, ça, c'est difficile de se qualifier pour les Paralympiques.
D'accord, oui. Comme dans toute grande compétition internationale, des fois, le processus de qualification peut être plus difficile, dépendamment d'où vous vous trouvez sur la planète. Alors, c'est un élément non négligeable dans ce cas-ci. Ah ben, voyez, Julie, ça a été très instructif. Julie Guéot, je rappelle que vous êtes trésorière du conseil d'administration, responsable du volleyball assis au club Everton. Vous nous parliez en direct de Rio. Un grand merci pour ces quelques minutes.
Merci à vous.
Et nous étions à Rio, restons-y, hein, pourquoi pas. Quoique c'est assez chaud et humide sur Montréal, je ne sais pas si c'est la même chose pour Rio. De l'agence Sportcom, Émilie Bouchard, la bonté pourra nous le dire. Allô, Émilie?
Allô, il y a un petit vent, là, fait que ça fait du bien, parce que sinon, en effet, il fait chaud.
Tu vas nous arracher une larme.
Ah, mais c'est l'hiver quand même ici.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, on s'est parlé lors de l'ouverture de notre série, et c'est la première fois qu'on se reparle depuis. Tu as été une fille pas mal occupée, entre autres, si on fait un peu dans un ordre un peu pêle-mêle, là, t'as entre autres suivi Nicole Clermont, qui a une des très bonnes histoires là, de la délégation canadienne à ces Jeux paralympiques.
Oui, mais puis en plus, c'est pas une histoire de médaille, histoire de performance, mais cette dame-là, en paracyclisme, est directrice d'école, ça, c'est son vrai travail. Elle a 55 ans et participe à ses premiers Jeux paralympiques ici à Rio. Elle a fait son première épreuve à la poursuite individuelle sur la piste dans le vélodrome de Rio. Puis elle a fini 9e et dernière. Mais ce qu'elle savait, c'est que cette journée-là, à son école, comme la directrice d'école, à l'école du Bois-Joli, dans la région de Sherbrooke, tous ses élèves étaient réunis dans le gymnase pour pouvoir assister à sa course, essayer de voir qu'est-ce qu'elle allait faire. Et ensuite, après la course, la première chose qu'elle a faite, bien, elle a appelé ses élèves pour leur raconter comment elle avait pour partager son expérience.
Mais tu le disais, elle a la cinquantaine, c'est ses premiers jeux et ça fait pas longtemps là, qu'elle a décidé de se mettre au paracyclisme.
Non, c'est une adepte du vélo, une vélo cycliste.
De loisir.
Quand même assez aguerrie, oui, ouais. C'est ça. Puis. Ensuite, elle a un petit handicap à une main, donc elle a fait le processus pour faire une classification paralympique qui a été acceptée. Donc, c'est sûr que c'est un handicap léger chez les C5, mais c'était suffisant là, pour avoir une classification. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est ici, mais quand même médaillée en Coupe du monde, Nicole, elle n'a pas enlevé sa place à personne à Rio. Là.
C'est un de ces exemples, moi je me plais à le dire, mais c'est un de ces exemples où il n'y a pas de médaille, mais que la participation est tout aussi impressionnante qu'un podium. Cela dit, un podium, ça reste un podium. Et tu as eu la chance aussi d'assister à la médaille d'or d'Aurélie Rivard dans la piscine.
Oui, c'est ça, un podium, ça reste un podium, mais une médaille d'or, un record du monde. Ouais. Ça reste une médaille d'or, un record du monde. Aurélie Rivard, elle se présentait aux Jeux paralympiques. Et bon, elle était à Londres, elle était l'une des plus jeunes de la délégation de la Canadienne à 16 ans. Médaille d'argent aux 400 mètres libres. L'an passé, ça avait très bien été au championnat du monde, donc championne du monde en titre. Donc, détentrice d'un record du monde, la seule chose qui lui manque, c'est son palmarès. Cette petite jeune-là de 20 ans, on parlait de 55 ans, mais là, 20 ans,
oui.
C'était une médaille d'or olympique. Paralympique, accompli du premier coup avec un record du monde en plus. Elle a touché le mur, c'est de la pression pas mal pour elle depuis la dernière année, depuis sa victoire dans le fond au championnat du monde, question de conserver sa domination. Mm-hmm. Réussi haut la main, de mener complètement la course, toucher le camp, elle a touché le mur, à se virer vers ses parents, c'est vraiment cute. Elle est très, très émue, la Aurélie. Sa famille, sa sœur était dans les estrades, là, donc très beau moment. Puis après ça, elle a dit, bon, j'ai passé à travers toutes les émotions. Après ma course, j'avais envie de vomir. Après ça, j'avais envie de pleurer. Après ça, je savais pas trop s'il fallait que je saute partout, que je ris. Fait qu'elle a passé à travers toute une gamme d'émotions. Puis elle était déjà encore en action ce soir au 100 mètres d'eau. Benoît Huot, d'ailleurs, aussi va nager le 100 mètres d'eau ce soir.
Voilà, c'est les deux grandes vedettes. Et Benoît Huot a longtemps été la grande vedette. Là, il a de la compétition avec Aurélie Rivard. Et qu'elle s'habitue, hein, parce que c'est ça, ça pourrait. Le scénario d'hier pourrait se répéter à quelques reprises. Il nous reste un peu de temps, Émilie. Parlons un peu des sports d'équipe. Je sais que tu étais à la boccia plus tôt aujourd'hui.
Oui, les deux équipes canadiennes en double étaient en action en double BC3 et double BC4. Double BC4, qui est composé de Marco Di Paltro, qui a gagné la médaille de bronze à cette épreuve-là à Londres avec Alison Levine et Julianne Choubalu. Il affronterait le Brésil. Et bon, dans l'aréna, le tournoi de boccia s'est présenté. C'était plein de Brésiliens. À chaque lancée, on entendait les Brésiliens crier. Et les Canadiens ont super bien fait. Une défaite finalement 4-3, mais ça s'est décidé sur le dernier lancé. Vraiment une dernière manche épique. Là. On savait pas trop qui allait l'emporter. Puis finalement, c'est le dernier lancé du Brésilien, Dos Santos, qui célébrait en plus son anniversaire aujourd'hui, qui a finalement fait le coup gagnant, un coup de grâce là, qui a donné la victoire à son équipe. Mais c'est pas fini pour le Canada non plus. Il affronte les Chinois ce soir et il y a encore des matchs de la ronde préliminaire demain au programme.
Et là, est-ce qu'on est en train de te faire rater le match de basket en fauteuil roulant?
Un petit peu. Les Canadiens ont deux défaites dans le tournoi. Là. Je sais qu'ils jouent contre les Australiens. Les Australiens sont champions du monde ensuite. Puis là, en tout cas, quand j'ai regardé le score la dernière fois, avant que vous m'appeliez, c'est assez serré, donc j'allais voir la fin du match, puis je pouvais vous en reparler.
Oui, et ça pourrait être un peu de la rédemption là, pour cette équipe canadienne, championne olympique en titre, qui connaît un mauvais début de tournoi jusqu'à maintenant. De battre l'Australie, ça remonterait le moral, puis ça ferait remonter l'équipe au classement aussi.
Oui, en effet, mais en même temps, l'équipe canadienne en basket en fauteuil roulant chez les hommes, c'est la moitié de l'équipe, c'est des recrues. C'est leur premier jeu paralympique. Donc, depuis les 4 ans, c'est une équipe en reconstruction. C'est dommage, c'est un peu décevant, 2 défaites, mais c'est pas la grosse catastrophe non plus. On va espérer qu'ils vont avoir 2 autres matchs encore contre la Turquie puis le Japon pour se reprendre aussi.
Bien, c'est une excellente remise en perspective, ça, Émilie. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Très hâte de te retrouver plus tard dans notre série.
Bonne journée.
Émilie Bouchard est la bonté de l'agence Sportcom et l'une de nos collaboratrices sur place à Rio. Oui, c'est facile de dire que l'équipe de basket est championne olympique en titre, mais c'est vrai que c'est pas exactement la même équipe. C'est assez non négligeable, ça, comme, comme information. Philippe Asselin, bon, on a touché un peu, on a parlé des finales, Benoît Huot, Aurélie Rivard ce soir, mais qu'est-ce qu'on surveille de façon générale là, pour les 24 prochaines heures?
À demain, à surveiller, petite journée pour le Canada, peu de d'équipes en action, ouais. Ouais, exactement, peu de compétition en général aussi à Rio. Mais alors, ça commence ce soir. Émilie nous en a parlé, la finale du 100 mètres brasse chez les hommes et chez les femmes en S10. Benoît Huot et Aurélie Rivard, deux excellentes chances de médaille ce soir pour le Canada, qui porterait donc le total à 9. Sinon, deuxième match pardon, pour la boccia contre la Chine. Émilie nous en a parlé aussi. Et donc, demain, on va suivre Stéphanie Chan, la joueuse de tennis de table.
Qui a perdu aujourd'hui, mais qui passe dans les
rondes éliminatoires. Qui a gagné aujourd'hui. Ce matin, qui avait perdu son premier match et qui, donc, jouera son troisième match de préliminaire, cette fois-ci contre une Néerlandaise.
D'accord.
Donc, devra l'emporter si elle veut continuer son tournoi paralympique. Et en goalball, deuxième match pour le Canada qui... contre l'Ukraine, sinon on aura un petit peu d'athlétisme aussi et de natation. Bien entendu, on reviendra sur les résultats demain. Et j'ai envie qu'on regarde ensemble, on ne l'a pas fait en début d'émission, mais le tableau des médailles avec justement les médailles canadiennes qui se sont ajoutées. Et là, Alexandre, tu vas peut-être expliquer qu'il y a deux façons de calculer ton analyse, la façon de deux calculer les médailles.
C'est parce que ça soulève des questions. Il y a le tableau officiel, donc le vrai tableau, entre guillemets. Puis au Canada, on a pris la mauvaise habitude d'y aller avec un tableau qui met de l'avant le total de médailles, mais le tableau officiel, lui, met de l'avant les médailles d'or et ensuite les médailles d'argent et ensuite les médailles de bronze. Donc, vous pouvez avoir, je ne sais pas, moi, 6 médailles, mais être devant quelqu'un qui en a 100 si celui qui en a 100 n'a pas de médaille d'or, exemple.
Eh bien, Alexandre, pour le Canada, on va regarder les deux classements sur un tableau. Donc, si on se fie seulement au tableau qui favorise les médailles d'or. Eh bien, le Canada est 7e présentement avec 7 médailles, 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent. Rappelons-le, la Chine est bonne première avec 52 médailles.
Ça va être difficile à rattraper,
d'or.
Ça.
Oui, parce que la deuxième équipe derrière la Chine, c'est la Grande-Bretagne avec 29 médailles, un total de 29 médailles, dont 13 d'or. L'Ukraine finit le podium. Et si on regarde du côté du total des médailles, eh bien, le Canada est 11e derrière la République de Corée. Et la Chine est toujours première, suivie de la Grande-Bretagne et de l'Ukraine. Les États-Unis sont quatrième dans les deux classements, quatrième.
Donc on faisait le tableau du total des médailles au Canada parce que ça avantageait le pays. Là, dans ce cas-ci, c'est le contraire. C'est le vrai tableau qui avantage le Canada. Merci beaucoup, Philippe Asselin, pour ça et pour ton travail également de production. Puisque je suis dans les remerciements, un merci spécial pour Julie Guéot du club de volleyball Everton, qui était notre spécialiste de volleyball assis. Émilie Bouchard, La Bonté, de l'agence Sportcom, à qui on vient de parler. Vous allez trouver sur le site de Canal M toutes les informations sur nos invités et l'intégrale de nos émissions également. Je m'appelle Alexandre Coupal. Merci d'avoir été là. Merci à Mathieu Tessier également aux tables tournantes. On se retrouve demain!